Bonjour Bernard Debré.
Bonjour Frédéric Rivière.
Les Coptes d'Égypte ont été victimes de deux attentats très meurtriers hier au Caire. 44 morts au total. François Fillon a très régulièrement, depuis des années, évoqué la cause des chrétiens d'Orient. C'est quelque chose qui lui est cher. Aurait-il des moyens d'action? Pourrait-il faire quelque chose s'il devenait président de la République?
Écoutez, le problème est dramatique. On voit qu'il y a... Non pas c'est uniquement ces deux accidents, ces deux attentats, ces deux drames. Il y en a eu beaucoup d'autres. Et il faut qu'on se préoccupe des chrétiens d'Orient qui, pour l'instant, sont en train d'être expulsés. Expulsés parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Oui, c'est leur pays. Parce qu'ils étaient là avant les musulmans, ils étaient là parmi les premiers habitants. Alors oui... Que faut-il faire? Ben d'abord, c'est lutter contre Daesh, contre les idées islamistes révolutionnaires, meurtrières, terroristes. Il faudra que cette guerre, puisque il s'agit d'une guerre, je crois que tout le monde l'a dit, je ne veux pas revenir à ce qu'a dit Monsieur Valls ou d'autres encore, c'est une guerre. Ben, il faut se donner les moyens de
et
cette
ça
guerre.
Ça nous renvoie à la question de la coalition internationale et de nos rapports avec la Russie.
Mais bien entendu, vous comprenez, c'est très joli de dire on ne veut pas d'un tel, mais on doit faire une coalition pour lutter contre cette guerre. On a bien fait une coalition en 1941 avec Staline. Vous croyez qu'il était fréquentable? Bon, mais il y a quand même l'obligation, l'ardente obligation de se dire on doit lutter contre ces terroristes fous. Et je pense que c'est la seule chose à faire. Et d'accueillir, bien sûr, ceux et celles qui fuient la guerre parmi les chrétiens, mais pas que.
Pour la première fois dans un sondage, Jean-Luc Mélenchon passe devant François Fillon. Alors à un point près, donc on est dans la fameuse marge d'erreur. Mais enfin, tout de même, j'imagine que symboliquement, ça ne vous a pas échappé. 18% pour Mélenchon contre 17% à François Fillon. C'est inquiétant de voir cette dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon et pour l'instant, cette stagnation sur son socle de François Fillon.
Alors écoutez, oui, bien sûr, je ne vais pas me dire formidable, je ne vais
tout
pas avoir
bien.
La langue de bois. Je dis simplement que je parcours la France. Ce soir, vous voyez, je suis à Toulon. Demain, je ne sais plus où, j'arrive de Besançon. Et je vois qu'il y a de plus en plus de monde. C'est assez étonnant, réconfortant. Et puis on voit aussi, parce que vous n'avez pas cité tous les détails de ces sondages, que Macron est en train de baisser... que Marine Le Pen est en train de baisser.
Perdent tous les deux 2 points.
Eh oui. Et je pense que tous...
Mais sont toujours en tête, à 24%.
Oui, mais je pense que, vous savez, les marges d'erreur des sondages, les sondages eux-mêmes, je me souviens, je ne vais pas le redire encore une fois, à 15 jours des élections, du premier tour des élections primaires, on me demandait pourquoi je soutenais François Fillon, en me disant, il va être 3e, si ce n'est 4e, qu'est-ce que vous faites là?
Si on suit le raisonnement des primaires, d'ailleurs, le 2e tour, ça pourrait être François Fillon face à Benoît Hamon. Qui sont tous les deux...
Mélenchon, vous voulez dire.
Benoît Hamon, les gagnants surprises, tous les deux,
oui,
de leurs primaires respectives.
Mais je pense que Benoît Hamon est en train de baisser fortement dans les sondages. Alors, moi, je fais tout pour, je sens un frémissement important, et je ne crois absolument pas à la dynamique définitive de Mélenchon. Je ne vois pas la France à l'extrême-gauche. Comme je ne la vois pas d'ailleurs à l'extrême droite.
Lors de son meeting hier à la porte de Versailles auquel vous étiez, François Fillon a dit à la foule, je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir. Est-ce que c'est une façon de dire ne vous intéressez pas finalement à mes affaires ou à mes erreurs, puisqu'il a reconnu lui-même des erreurs, mais intéressez-vous à mon projet et à ce que je propose pour la France?
Mais je crois que c'est vrai, oui, bien sûr, mais je vois beaucoup de gens qui me disent, oh là là, on a été secoués par ces affaires, je n'en parlerai pas parce que il y a beaucoup à dire, plutôt en faveur de François Fillon. Mais son programme est le mieux, le plus élaboré, et beaucoup de gens me le disent. Et même des gens, quand on est seul à seul à gauche, modérés bien sûr, disent incontestablement c'est le plus élaboré et c'est le programme qu'il nous faudrait et qu'il nous faut. C'est pour ça que je me dis que intellectuellement, mais on vote pas forcément intellectuellement.
Au moins un peu, espérons-le.
Oui, donc on se dit on peut pas avoir une France dirigé d'un côté ou d'un, éventuellement par l'extrême droite, l'extrême gauche, même par Macron, parce que on ne sait pas très bien où il est. D'ailleurs, ils sont en train de baisser. Alors, moi, je garde toujours cet espoir. Je suis en train de me conforté dans cet espoir de voir François Fillon au deuxième tour.
C'est l'idée finalement de ce qu'on a appelé le vote caché, voire du vote honteux, c'est-à-dire au fond des gens qui, comme vous l'avez dit, ont été secoués, peut-être choqués, mais qui se disent bon, bah, faute de mieux ou faute de grève, on mange du merle, donc je vais voter quand même Fillon, malgré tout, parce que je ne vois pas pour qui d'autre voter.
Frédéric Rivière, je n'appellerai pas ça un vote caché, parce que ça me rappelle le vote de Le Pen il y a des années. Le vote de Le Pen n'est plus caché. Il n'y a plus de vote caché. Il y a des hésitants. Des hésitants qui se disent « Ah bah tiens, on aurait pu aller vers Macron. » Puis qui commencent à dire « Ah non, non, peut-être c'est pas très sérieux. » Des hésitants qui disaient « Je vais m'abstenir. » Et puis se disent « Non, l'enjeu est trop important. » L'enjeu est important, on vient de le dire. Regardez la sixième flotte, ou je ne sais pas quelle flotte américaine est en train d'aller vers la Corée du Nord. Je ne dis pas que la Corée du Nord est un pays gracieux et formidable. C'est un pays dangereux, mais le monde est en train de devenir dangereux. Est-ce qu'on voit Emmanuel Macron, sans aucune expérience politique, ni intérieure, ni surtout extérieure, avoir le bouton atomique, négocier avec Trump, qui est aussi un peu particulier, ou avec Poutine, qui est aussi un peu particulier, avec Xi Jinping, qui est aussi un peu particulier, vous voyez. Et les Français se disent, mais c'est vrai que c'est dangereux. Dangereux à l'intérieur, dangereux à l'extérieur. Il faut peut-être quelqu'un d'un peu sérieux et d'un peu expérimenté.
Lors de son meeting hier, François Fillon a dit, il faut se demander ce qui pourrait rendre fier d'être Français aujourd'hui un jeune de 20 ans. Quelle est votre réponse à cette question ?
D'avoir du travail. Parce que, vous savez, moi je veux bien qu'on dise « sois fier, sois fier, sois fier d'être français ». Oui, je suis fier d'être français. Mais d'abord et avant toute chose, je voudrais que les jeunes aient du travail. Parce que c'est à ce moment-là, dans la sérénité, qu'ils peuvent être fiers d'être français. Il faut comprendre les gens qui sont au chômage, il faut voir la difficulté qu'ils ont. Et puis c'est vrai, la disparité qu'il y a entre les uns et les autres. Et il faut leur dire... Il faut d'abord et avant toute chose que vous ayez du travail. C'est pour ça que François Fillon a un programme très élaboré.
Avez-vous réfléchi, Bernard Debré, à ce qui arrivera à votre parti et à votre famille politique si François Fillon échoue, et peut-être échoue lourdement ?
Mais j'ai réfléchi aux deux hypothèses.
Oui.
Si François Fillon gagne et si François Fillon échoue, mais il y aura forcément des troubles dans mon parti politique. Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes à peut-être la fin des partis politiques en général, aussi bien socialistes, droite, tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez vous adresser aux électeurs, vous faites une lettre ouverte, il y a 1 million de personnes qui la lit. Et quand vous regardez un parti politique, il a 100-150 000 adhérents. Alors on aura toujours besoin d'un parti politique, c'est la démocratie, mais il sera peut-être, son influence sera diminuée par rapport à ce qu'elle était auparavant.
Merci Bernard Debré, bonne journée.